BW. Vue d'Allemagne.
Il y a 100 ans, le sort des colonies de l'Empire allemand était scellé par le traité de Versailles, élaboré par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Parmi elles, l'actuelle Namibie, qui réclame aujourd'hui des réparations pour les crimes de l'époque coloniale. Les Indiens votent pour élire leurs nouveaux députés, des élections que le Premier ministre Narendra Modi est bien décidé à remporter en misant tout sur sa personnalité. Voilà ce qui vous attend dans ce numéro de votre magazine Vue d'Allemagne. Willkommen et bienvenue. Au printemps 1919, les pays sortis vainqueurs de la plus grande boucherie de l'histoire réaménagent l'ordre mondial. Une conférence de la paix se tient à Paris depuis le mois de janvier. Le président américain Woodrow Wilson y a présenté un plan en 14 points fondé sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Société des Nations s'apprête à voir le jour. Le cinquième point du plan Wilson aborde directement la question des colonies. Il prévoit un ajustement libre, ouvert, absolument impartial de tous les territoires coloniaux. Les négociations à venir doivent, selon lui, prendre en compte les intérêts des populations concernées. Pour les habitants des pays colonisés, c'est un ton radicalement nouveau de la part de l'Occident. Pour la première fois, leur voix va compter. C'est aussi une promesse de libération d'un système d'exploitation à grande échelle, comme l'explique Jürgen Zimmerer, professeur d'études africaines à l'université de Hambourg.
Le colonialisme est globalement un système raciste, un système d'injustice structurelle. C'est ce qui unit toutes les puissances coloniales européennes. Elles sont allées sur des territoires sans y être invitées. Elles ont revendiqué que c'était les leurs et y ont pris ce dont elles avaient besoin.
Lorsque la conférence de Paris s'attaque au statut des colonies de l'Empire allemand, les pays africains sous domination allemande, Cameroun, Togo, Afrique orientale et Sud-Ouest africain, entrevoient l'espoir d'accéder à l'indépendance. C'est sans compter sur les autres puissances coloniales. Le Premier ministre de l'Union sud-africaine, Jan Smuts, affirme alors que les territoires coloniaux allemands sont peuplés par des barbares, raison pour laquelle il est nécessaire de les administrer. Les participants de la conférence s'accordent pour placer les colonies allemandes sous mandat de la Société des Nations. Les territoires sont distingués selon différents degrés de développement. Le sud-ouest africain, aujourd'hui Namibie, fait partie des territoires dont les peuples sont jugés non encore capables de se diriger eux-mêmes. Et pour cause, ces peuples ont fait les frais d'une colonisation brutale de la part de l'Empire allemand, raconte Jürgen Zimmerer.
On a mis en œuvre une utopie de la domination, une société de privilèges raciales établie dès le départ avec un maître blanc et un serviteur noir. Et c'est pourquoi toute cette colonie a été fondamentalement réorganisée. Et parce qu'il a été si court, l'impact de ce changement a été encore plus radical que dans d'autres colonies de puissance européenne où le processus a pris des siècles. Ça a été court, mais incroyablement intense.
Parmi les crimes commis, le génocide des Herero et des Nama entre 1904 et 1908. Environ 80 000 personnes ont été tuées dans la lutte contre les forces coloniales. Le Reich a également modifié radicalement la structure de propriété dans le pays en expropriant la totalité des terres des Herero et Nama revendues aux colons allemands. Aujourd'hui encore, la plupart des membres de ces ethnies ne possèdent pas de terres. Pour Jürgen Zimmerer, l'Allemagne n'est pas sur la bonne voie pour réparer les méfaits de sa période coloniale. En négociant exclusivement avec les autorités namibiennes et en rejetant toute compensation financière aux Herero et aux Nama, le gouvernement allemand se trompe, estime l'africaniste.
Je pense que la réaction du gouvernement allemand est dangereuse. Il ne pourra y avoir de réconciliation qu'en trouvant un moyen de réparer l'injustice historique et de mettre fin à cette pauvreté. Accepter de ne parler qu'au gouvernement, qui est lui-même un résultat du colonialisme, c'est entretenir le déséquilibre. Je crains que les forces modérées chez les Nama et les Herero perdent du terrain au profit de ceux qui réclament une solution plus radicale, voire l'occupation des terres.
Cent ans après le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 et qui marque la fin officielle de l'empire colonial allemand, l'héritage du colonialisme pèse encore lourd dans les relations entre les anciennes puissances coloniales et les pays colonisés. une question soigneusement laissée de côté au moment de la rédaction du traité est toujours une source de conflit récurrent, celle des frontières des pays africains. Celle-ci avait été définie arbitrairement lors de la conférence de Berlin en 1885, une décision lourde de conséquences selon Jürgen Zimmerer.
Ces frontières linéaires ne prenaient pas en compte les structures locales des sociétés qui étaient traditionnellement parentes ou amies ont été déchirées par les frontières coloniales et des groupes qui étaient traditionnellement en concurrence ou en rivalité se sont retrouvés tout à coup réunis dans un État. Le problème des minorités dans de nombreux pays africains était un résultat du colonialisme et l'État-nation est une part de l'héritage colonial et c'est une lourde hypothèque. Aujourd'hui encore, personne ne veut remettre en question les frontières coloniales car on a peur de ne pas pouvoir contrôler le processus.
La marge de manœuvre de la Société des Nations était donc dès le départ limitée et les conséquences souvent violentes des frontières coloniales sont aujourd'hui encore au cœur des préoccupations à l'ONU, l'organisation qui a succédé à la Société des Nations après la Seconde Guerre mondiale. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on se tourne vers un autre pays qui a été longtemps sous le joug colonial britannique, cette fois l'Inde. Les Indiens votent depuis le 11 avril et jusqu'au 19 mai pour des élections législatives qui se déroulent en 7 phases. 900 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour décider s'ils veulent réélire ou pas la droite hindoue au pouvoir depuis 5 ans. Le Premier ministre sortant, Narendra Modi, s'appuie sur un véritable culte autour de sa personnalité pour remporter l'élection. Le reportage de notre correspondant en Inde, Emmanuel Derville.
L'Inde vit au rythme des législatives et à mesure que l'on parcourt le pays, il est difficile de ne pas le remarquer. Le Premier ministre sortant Narendra Modi est absolument partout sur les affiches électorales de son parti, le BJP, la droite fondamentaliste hindoue. Dans les meetings, les haut-parleurs crachent son nom. Aucun autre politicien de droite ne semble exister. Dans la foule qui se masse sur l'esplanade de Parade Ground, dans la ville de Dehradun en ce mois d'avril, certains errent avec un masque arborant son visage. Parmi ceux qui patientent en cet après-midi brûlant, beaucoup comme cette militante du BJP partagent le même désir, voir Modi, entendre Modi, rencontrer Modi.
J'aime tout en lui, j'aime sa façon de travailler, il vit pour le peuple alors qu'il n'a rien à y gagner, il œuvre pour le pays. Je suis avec M. Modi et toute la population est derrière lui. Nous sommes des disciples de Modi. Si Modi est réélu, le pays sera sauvé, sinon le pays sera fini.
Cette popularité du Premier ministre ne se limite pas aux militants de droite. À Jaipur, une ville de l'ouest du pays pourtant frappée par le chômage, on trouve facilement des témoins qui étalent leur admiration envers le Premier ministre. C'est le cas d'Anurag, un jeune étudiant de la ville.
Modi, c'est notre Premier ministre et il est le premier à avoir réussi à faire de l'Inde une puissance respectée à travers le monde. Ensuite, c'est lui qui a réussi à pousser les riches à rendre des comptes sur leur argent non déclaré. Troisièmement, son gouvernement pense vraiment à l'homme du peuple. Il travaille pour lui. Enfin, après l'attentat contre l'armée indienne au Cachemire, à Pulwama, en février, il a été le seul chef capable d'attaquer le Pakistan en représailles immédiatement. Et cette opération de représailles a tué 300 terroristes. Aucun gouvernement n'avait jamais réussi à faire ça avant. Mais Modi, lui, l'a fait.
Révélateur du pivot qu'est Narendra Modi dans la campagne électorale d'une droite hindoue qui alimente un culte de la personnalité autour de son chef. Ce phénomène est rare en Inde. Mis à part Indira Gandhi dans les années 70, les premiers ministres ont toujours été des figures égales aux autres politiciens. Mais avec Modi, la vie politique a basculé dans une nouvelle ère. Le numéro 1 du gouvernement a son site internet narendramodi.in, sa chaîne de télévision Namo TV et une application smartphone à son nom. Un biopic à sa gloire sortira même au cinéma bientôt. La bande-annonce met en scène un homme humble qui a l'amour de sa patrie chevillée au corps. Parfois il pleure car il est sensible à la souffrance d'un peuple qu'il comprend puisqu'il a travaillé comme vendeur de thé quand il était enfant. On touche là au thème central du populisme de Modi. Il incarne le peuple et se dit être à son service. Mais pour le politologue indien Ashish Nandi, ce populisme révèle aussi la personnalité très narcissique du Premier ministre.
Le narcissisme que l'on observe ici est assez particulier. Je dirais qu'il est plus pathologique que la normale. Ici, ce narcissisme se combine avec une grande vacuité intellectuelle chez le Premier ministre qui énonce surtout des slogans, des stéréotypes et des répliques qui font mouche. Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour la critique et encore moins pour l'autocritique. Pour lui, admettre qu'il a tort reviendrait à voir le monde s'effondrer.
Dans ce contexte, Narendra Modi s'entoure de conseillers qui se soumettent à ses idées et rechignent à le contredire. Pour Ashish Nandi, ce climat au sein du bureau du Premier ministre n'est pas sans conséquences sur la gestion du pays.
Modi tente à rechercher des personnes qui lui sont inférieures sur le plan intellectuel. Et c'est dangereux quand vous partez du principe que ceux qui pensent comme vous sont les plus compétents pour n'importe quelle chose, alors cela veut dire qu'un économiste qui vous admire sera supérieur à celui qui n'est pas d'accord avec vous. Mais du coup, vous avez un handicap pour gérer une société aussi diverse et aussi compliquée que l'Inde.
Difficile de dire si ce culte de la personnalité donnera la victoire au Premier ministre Narendra Modi et à son parti. Les derniers sondages publiés début avril plaçaient le BJP et ses alliés à une dizaine de sièges de la majorité absolue à la chambre basse du Parlement. Les résultats seront dévoilés le 23 mai. Emmanuel Derville, à New Delhi, pour la Deutsche Welle.
Vue d'Allemagne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouverez tous les numéros de ce magazine co-animé par Hugo Flotte-Atalon sur notre site web dw.com dans la rubrique médiathèque. C'était Anne Letouzet au micro. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de la DW. Portez-vous bien. Tchuss!